Place Info.
Bonsoir, à la une, j'étouffe les vidéos de la mort de Cédric Chouviat. Sommes-nous en train de jouer avec l'épidémie? Nous évoquerons également Emmanuel Macron qui est déjà dans l'après-municipal. C'est dans les informés avec Roselyne Fèvre, la chef du service politique de France 24, avec Maya Daboulos, la directrice générale adjointe de Havas Paris, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Et j'étouffe le cri répété à 7 reprises par Cédric Chouviat le 3 janvier dernier lors de son interpellation par la police Quai Branly à Paris. Les vidéos ont donc parlé, celles de ce livreur âgé de 42 ans et père de famille décédé donc à la suite de ce contrôle routier qui avait mal tourné, mais aussi celles de l'une des policières impliqués dans l'arrestation. Les 4 fonctionnaires de police à l'origine de cette interpellation et du décès ont été placés en garde à vue, auditionnés par l'IGPN. Une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. Cédric Chouviat plaqué au sol. Une clé d'étranglement avait été pratiquée. Voilà pour la présentation des faits. Gilles Bornstein, cela relance ce soir la polémique sur ces techniques d'interpellation des forces de l'ordre.
Ah bah, clairement. Clairement, c'est-à-dire que ce qui est vraiment invraisemblable dans cette histoire, c'est à quel point ça ressemble à ce qui s'est passé aux États-Unis il y a un mois, parce que c'est la même technique d'interpellation, et les deux victimes disent exactement la même chose, l'un I can't breathe et l'autre j'étouffe, donc c'est vraiment invraisemblable. Forcément, ça va relancer les débats, comme vous le dites, sur les techniques d'interpellation. Christophe Castaner a interdit cette technique, ouais. Puis l'a réautorisée, et maintenant il y a un décès alors qu'il l'a réautorisée. C'est quand même invraisemblable. C'est invraisemblable. On peut aussi s'étonner que ces policiers ne soient pas suspendus, parce que, à ma connaissance, pour l'instant, ils ne sont toujours pas suspendus, alors que si on lit ce qu'il y a dans les auditions, alors, franchement, c'est assez compliqué de comprendre pourquoi ils ne sont pas suspendus. Enfin, tout est incompréhensible dans cette histoire. Pourquoi ça sort maintenant? Alors, je ne vois pas comment il est possible que le pouvoir, Christophe Castaner, la garde des Sceaux, etc., ils n'ont pas dû découvrir, grâce à Mediapart, le contenu de ces enquêtes. Ils le savent forcément depuis longtemps. Et voilà, donc tout... je suis désolé, j'ai plus de questions que de réponses, mais vraiment tout cela pose beaucoup de questions.
Vous soulevez les bons questionnements, Gilles Bornstein. Les enregistrements auxquels France Info a eu accès durent 12 minutes. Ils montrent ce contrôle extrêmement tendu avec des échanges verbaux qui l'ont prolongé. Cédric Chouviat traitant à plusieurs reprises les policiers de clowns, de guignols, de pauvres types. Les avocats de la famille Chouviat parlent d'un emballement répressif en France. Roselyne Fèvre, est-ce que vous partagez le point de vue des avocats?
Un emballement. En tout cas, cette affaire est de nature à ne pas apaiser le débat, bien évidemment. Et on peut, et je rejoins Gilles dans ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question. D'abord, l'affaire s'est arrivée en janvier, nous sommes au mois de juin. Il est vrai qu'il y a eu le confinement entre-temps, mais les 4 policiers sont toujours en fonction. Donc, l'enquête a-t-elle vraiment démarré, ou alors elle a pourri sur pied pendant quelques mois? Et est-ce qu'il a fallu cette affaire Floyd et l'affaire Traoré, qui a été en fait une forme de résonance, pour que ça ressorte? En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'affaire Traoré, quand même, toute la question était de savoir si les policiers, enfin les gendarmes, étaient responsables de la mort d'Adama Traoré. C'est tout le sujet du procès. Là, on a au moins les preuves flagrantes, comme dans l'affaire Floyd. Il y a des vidéos qui ne mentent pas, que clairement, il était en train d'étouffer.
Henri Vernet, terrible récit. Hein. Ça dure 12 minutes et au fond, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de penser aux responsabilités des uns et des autres.
Oui, bien sûr, mais moi je suis comme Gilles, je veux dire que ça soulève davantage de, bon déjà en effet, d'effroi, parce que c'est vrai que c'est un récit qui est assez insoutenable, qui fait en effet, hein, dans sa dramaturgie, qui fait vraiment écho à George Floyd, à la mort terrible de George Floyd, où là on a vu la vidéo dans l'immédiat, où on a vu, c'était encore une fois, cette espèce d'assassinat de sang-froid de cet homme. Là donc ça y fait écho, c'est vrai que toutes les questions en effet sur... Le ministre Castaner savait-il, faisait-il référence précisément à ces vidéos et donc à cette arrestation et à son issue dramatique quand il a édicté cette interdiction soudaine hein, de la technique de l'encadrement, mais bien sûr, de l'étranglement.
Oui, mais après, il est revenu.
Donc, alors voilà, oui, mais alors il est revenu parce qu'il nous a fait, mais parce qu'il nous a fait du Castaner. C'est-à-dire qu'il nous a fait d'un seul côté, d'un seul coup, il devenait un politique puissant qui s'affirmait à une administration, à une police dont il était un petit peu le simple porte-parole pendant toute la crise des Gilets jaunes. D'un seul coup, il s'affirmait et puis voyant le tollé que ça suscitait, une police qui se braquait contre lui d'un seul coup, voyant le danger de cela, et puis le légitime souci, en effet, de ne pas mettre tous les policiers et tous les gens dans le même panier. C'est ça, ce qui est, en effet, qu'il faut garder à l'esprit. Mais bref, voyons ce tollé, hop, il retourne en arrière. Donc là, écoutez, moi, à l'arrivée, ce que je vois, c'est que on a non seulement un problème de confiance entre la population et la police, mais surtout un problème de confiance entre la population et la justice. Parce que là, ce qu'on se demande, mais pourquoi, encore une fois, l'IGPN n'a pas non seulement suspendu, mais n'est pas allé plus loin dans les sanctions, et surtout, pourquoi la justice elle-même n'est pas soumise? Est-ce qu'il y a, en France, un soupçon d'impunité quand on est du côté des forces de l'ordre.
Alors Maya Daboulos, joint par France Info, hein, l'avocat de la famille de Cédric Chouviat, c'est Arié Halimi, a réagi. Désormais, dit-il, il incombe à Christophe Castaner d'interdire la technique de plaquage ventral et la clé d'étranglement, ce qu'évoquait Gilles Bornstein au début de cet échange, sauf à faire envoyer beaucoup de policiers aux assises. C'est donc ce que déclare Arié Halimi. Nous sommes face à un problème presque sans fin, là.
Un problème sans fin et surtout manifestement systémique. Et c'est là la question. C'est-à-dire qu'effectivement, notre histoire, notre culture, le nombre de morts, notre structure policière, son organisation, tout ça, ils sont complètement différents des États-Unis. Néanmoins, il y a des similitudes très importantes, comme le disait Gilles Bornstein tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce qu'on conteste le nombre de morts? Est-ce qu'on conteste les raisons de ces arrestations très très violentes, voire meurtrières, ou est-ce qu'on conteste leur nature? On conteste leur nature. Effectivement, ces violences ont été, j'ai envie de dire, le mot ne convient pas, mais popularisées par les questions de discrimination raciale, mais... rappelons-nous quand même de la période des Gilets jaunes, où la question des violences de la police a pris une ampleur autre. Donc, est-ce qu'on on est face à des violences de la police ou à des violences policières, structurelles? Je crois que malheureusement, on est quand même aujourd'hui face à quelque chose de plus systémique.
Allez, nous restons sur ces questions. 20h10 sur France Info. Le Fil Info avec vous, Frédéric Bagnada.
Le coup de massue pour les salariés de Nokia, l'équipementier finlandais de télécom, veut réduire ses coûts et annonce la suppression en France de 1233 emplois dans sa filiale Alcatel-Lucent. C'est le tiers de ses effectifs, il s'agit du quatrième plan social du groupe. Des inquiétudes également chez l'enseigne de prêt-à-porter Celio, qui a demandé son placement sous procédure de sauvegarde. L'entreprise a perdu plus de 100 millions d'euros durant la crise sanitaire. L'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane est sur la table, précision de Matignon face à la multiplication de nouveaux cas de Covid. La ministre des Outre-mer se rendra sur place dès demain. Un hôpital de campagne va également être déployé. Le Portugal va également rétablir plusieurs mesures de confinement dans la région de Lisbonne afin de maîtriser plusieurs foyers de contamination, comme la limite des rassemblements de plus de 10 personnes ou la fermeture des cafés et des commerces à partir de 20h. Depuis un mois, plus de 7800 nouveaux cas se sont déclarés dans cette région. L'espoir d'élucider la disparition d'Estelle Mouzin, 17 ans après, des fouilles ont débuté aujourd'hui dans les Ardennes, dans deux maisons de Michel Fourniret. Le corps de la fillette avait été retrouvé il y a plusieurs années. Le tueur en série a récemment avoué le meurtre d'Estelle Mouzin. C'est un record inquiétant. Il a fait ce week-end 38 degrés en Sibérie, record de température à Vertnoïask, à 4500 km au nord de Moscou. Jamais une telle température n'avait été atteinte au-delà du cercle polaire.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La mort de George Floyd, c'était il y a presque un mois déjà. Elle avait déclenché en France une vague de dénonciations contre les violences policières, avec en pointe de cette mobilisation la famille d'Adama Traoré. 200 policiers ont manifesté aujourd'hui devant la préfecture de Bobigny pour dénoncer une fresque dite contre le racisme et les violences policières, inaugurée récemment par la municipalité de Stein en Seine-Saint-Denis. Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
Le courrier va partir dans quelques temps avec une mise en demeure de retirer ce mot policier. Et ensuite, nous allons voir la réaction du maire, parce que je rappelle que tout ça a été apposé sur un bâtiment de la municipalité. Nous avons confiance dans sa détermination et j'espère, et je ne doute pas, qu'il arrive à ses fins à faire retirer ce mot policier parce qu'on ne veut plus et on ne veut pas d'amalgame entre les policiers, le racisme et les violences policières.
Roselyne Fèvre, cette fresque a-t-elle sa place ?
C'est pas à moi de répondre à cela. C'est du street art, hein. C'est sur un coup d'émotion et d'une résonance. On peut se poser la question de la résonance, bien évidemment. Est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que dans le fond, l'affaire Floyd, autant elle est précise, elle est nette, il y a des preuves tangibles que c'est un meurtre, autant dans l'affaire Traoré, c'est toute la question de savoir si les gendarmes sont responsables de sa mort. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est juste scandaleux quand vous êtes interpellé, vivant, vous ressortez mort. C'est quand même qu'il y a effectivement un problème. Ouais. Maintenant, écoutez, ça peut être pour l'histoire. Après tout, cette fresque, ça existait.
Oui, qui met en parallèle Adama Traoré et George Floyd.
Ça aura existé de toute manière. Ce parallélisme, il aura été fait. Donc, il appartient déjà, en quelque sorte, un peu à l'histoire, qu'on le conteste ou pas.
Gilles Van Steyn. Vous pensez que cette fresque, au fond, ces policiers ont raison de vouloir enlever la mention violence policière ?
Je les comprends, ils sont dans leur rôle. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Le racisme, ça existe. Les violences policières, ça existe. Que des gens s'en emparent pour une œuvre dont chacun jugera de l'esthétique, ça ne me paraît pas très choquant. Mais pour revenir à... Parce que je repensais à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la mort de Cédric Chouvia. Souvent, les policiers, c'est un argument auquel je suis sensible. J'y étais sensible quand on a interdit l'étranglement. Ils disent, on est en environnement hostile. Souvent, on est à face. Ils sont plusieurs. On est seul. On est en infériorité numérique.
Mais là, c'était pas le cas.
C'est compliqué. Là, c'est pas le cas du tout. Là, c'était plusieurs policiers face à une seule personne qui les a traités de clowns, mais qui manifestement n'était pas violente. Donc, ils ne peuvent pas du tout invoquer ce qu'ils évoquent d'habitude.
Je pourrais juste rajouter, violence policière, on met tout le monde dans le même sac. On pourrait dire violence de policiers. Parce que tous ne font pas des violences policières.
Henri Vernet, comment Emmanuel Macron peut se sortir de ce face-à-face permanent, désormais, entre une partie de l'opinion et les forces de l'ordre?
Je pense que si j'avais la recette... Peut-être qu'il me paierait cher pour des conseils, et c'est pas notre rôle. Mais évidemment, c'est délicat, parce que c'est vrai qu'il s'agit de violences de policiers, que tout le monde n'est pas condamné d'emblée. Bon, même si là, cette fresque, pour ma part, je pense aussi que l'art, il est là pour être excessif, pour dénoncer. Mmh. C'est son rôle d'être outrancier. Donc, bien sûr que cette fresque a sa place. Et donc, pour revenir à Emmanuel Macron, en tout cas, clairement, c'est pas le simple limogeage ou mutation à un autre fauteuil ministériel de Castaner qui résoudra la situation. C'est vrai que là, il faut prendre cette question à bras-le-corps, mais quelque part, Castaner avait commencé à le faire. Son discours était intéressant, il était courageux, il posait bien le problème, l'existence quand même, parce que vous dites, Roselyne, il s'agit de violences de policiers dans le cas d'espèce de Cédric Chouvia. Oui, mais enfin, ce qui existe, qui est général en revanche, puisqu'on le voit, cette technique d'étranglement. Donc, tant que des techniques pareilles d'arrestation sont en cours, sont admises, c'est même la façon
enseigné,
de faire,
enseigné.
Forcément, sont enseignées, c'est forcément un risque pour le coup systémique. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Ce sont encore une fois les rapports en effet entre la police et la population. C'est également ce sentiment de justice. Il faut que les gens aient vraiment confiance dans le fait que s'il y a bavure des forces de l'ordre, s'il y a excès de force et d'autorité de l'État, eh bien l'État soit redevable devant la justice, comme alors, administrative ou judiciaire, comme n'importe quel citoyen français.
Maya Dabolos, pour boucler cette réflexion, est-ce qu'un changement de locataire s'impose de la place Beauvau à... Parce qu'après tout, Christophe Castaner, peut-être il y a ce dialogue qui est rompu, qui est un peu bloqué désormais.
Alors, il y a deux questions. Il y a la question politique et il y a la question du dialogue avec les policiers. Je ne pense pas qu'un changement de locataire soit la réponse à la question de la défiance entre la population et la police, problème qui est beaucoup plus ancien que l'arrivée de Christophe Castaner à Beauvau.
Oui, et là-dessus, vous êtes d'accord, Gilles Bernstein également ? Vous pensez que ça ne se joue pas au casting, si je puis dire ?
Non, mais ça... Enfin... Disons que peut-être que les policiers auront un petit peu plus confiance dans leur ministre, mais Maillada a raison, c'est le fait de changer Christophe Castaner par XY ou Jérôme Choublard ne changera strictement rien à la défiance envers une partie de la population.
Les questions de casting se jouent dans des exemples très précis. Par exemple, quand il y a un contexte de terrorisme, évidemment, on a un Pasqua qui vient dire on va terroriser les terroristes, ou alors on a un Nicolas Sarkozy qui s'affirme beaucoup, ou Valls dans ce rôle-là. Là, oui, là, le casting joue un rôle. Mais quand il s'agit, encore une fois, d'avoir une police citoyenne, une police d'état de droit, là, non, je ne crois pas que l'occupant, que Castaner change quoi que ce soit.
Juste un mot auquel on pense, mais qu'on ne dit pas. D'une certaine manière, heureusement que Cédric Chouviat est blanc. Je sais que c'est compliqué à dire comme ça, mais sinon, il y aurait des accusations, de nouvelles accusations de racisme dans la police qui seraient susceptibles de mettre le feu aux poudres.
Mais là, ça nous rappelle quand même les violences policières qu'on a observées pendant la crise des
Gilets jaunes. Il y a deux questions, celle des violences policières et celle du racisme. Et là,
il y avait aussi des violences de l'autre côté.
Allez, on va passer au sujet suivant. Les Français ont-ils oublié 3 mois de confinement? Je vous rappelle le bilan ce soir de la Direction générale de la Santé. 29 663 victimes et un Covid-19 toujours présent. Toujours menaçant. Et puis il y a eu hier soir ces images, ces rassemblements joyeux pour la fête de la musique, et bien sans aucun geste barrière, sans distance physique. Maya Daboulos, vous êtes surprise par ce qui s'est produit hier soir?
Non, je dirais pas surprise. Ce qui est certain, c'est qu'on le voit dans les études d'opinion, les inquiétudes des Français sur les questions, les enjeux sanitaires, que ce soit une deuxième vague, que ce soit la question de la surpopulation dans les urgences, l'épidémie, cette inquiétude a drastiquement chuté. Elle était très élevée, de quasi 80% en mars. Elle est tombée à 50% à peu près aujourd'hui. On a presque envie de dire la peur a changé de camp. On est passé de craintes sanitaires à des craintes économiques très très fortes. En ce qui concerne la fête de la musique, c'est sûr que effectivement, on a aujourd'hui assisté à un relâchement. C'est incontestable. Ce relâchement et effectivement, les Français ont la mémoire courte. Il y a encore un mois et quelques on était confinés. Mais en même temps, les Français sont face à un dilemme. C'est-à-dire qu'on leur dit allez à l'école, allez au travail, allez au restaurant. Mais n'en faites pas trop. Ne blâmons pas, n'accablons pas les Français qui ont aussi une envie de vie après cet épisode, mais restons dans la pédagogie sur les gestes barrières, les masques, ayons un discours cohérent et continu sur la question.
Sommes-nous en train de jouer avec l'épidémie? On en parle dans les informés, 20h20 sur France Info, le Fil Info, Frédéric Bagnada.
L'inquiétude en Guyane face à la multiplication des cas de Covid. Matignon envisage un renforcement du reconfinement, un reconfinement dans ce département d'outre-mer, proche du Brésil, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. En attendant, le couvre-feu a été renforcé à Kourou et dans plusieurs autres villes. L'exécutif a d'ores et déjà annoncé un report du second tour des municipales. Après 4 mois de fermeture, le retour de Mickey. Disneyland Paris va progressivement rouvrir au public à partir du 15 juillet. La capacité d'accueil sera réduite et le port du masque obligatoire pour les visiteurs dès 11 ans. Un 4e plan social en 4 ans. Nokia veut supprimer 1233 postes dans sa filiale française Alcatel-Lucent. C'est un tiers de ses effectifs. Le gouvernement français demande à l'équipementier de télécom d'améliorer son plan social. L'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Plus de 17 ans après sa disparition, 2 maisons de Michel Fourniret ont été fouillées dans les Ardennes aujourd'hui. Le tueur en série a récemment avoué le meurtre. Les 4 policiers à l'origine de l'interpellation de Cédric Chouviat en janvier dernier à Paris, convoqués devant la justice en juillet prochain, ils ont été entendus par la police des polices après cette interpellation violente du livreur à scooter décédé 48 heures plus tard à l'hôpital. Et puis la CNIL vigilante sur les caméras anti-coronavirus, les caméras de détection de port du masque suspendues temporairement par la RATP. Elles étaient installées dans la station Châtelet à titre expérimental. Selon la CNIL, ces caméras risquent de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Parce que la menace sanitaire est toujours là et l'épidémie, eh bien, elle explose dans certaines parties du globe. Cette déclaration peu rassurante de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
The pandemic is still accelerating. La pandémie continue de s'accélérer. Il a fallu 3 mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas ayant été signalé en 8 jours seulement. Mais nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, une crise sociale et dans de nombreux pays, une crise politique. Ces effets se feront sentir pendant les décennies à venir.
Henri Vernet, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous tromper en ce moment? Nous accélérons le déconfinement, effectivement, comme cela a été dit, eh bien, les écoles rouvrent, les bars, les restaurants, les stades de football, les cinémas désormais. Et soudain, nous nous découvrons qu'eh bien, l'épidémie explose, la Guyane en fait les frais, elle voit qui voisine du Brésil.
Alors, nous tromper, je ne sais pas, parce que j'ai aucune compétence d'épidémiologiste, mais clairement, c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction entre, en effet, l'accélération de la pandémie dont parle l'OMS et l'accélération absolument incroyable du déconfinement, en effet, comme vous venez de le souligner, à laquelle on assiste. Or, c'était pas ce qui était prévu. Le déconfinement depuis le début, mais pas que dans notre pays. Chez les pays voisins, c'était pareil. C'était une affaire de différentes étapes. Et puis, à chaque étape, donc, on déconfinait un peu plus. Tout cela nous amenait jusqu'à fin juillet, en gros, hein. Et à chaque étape, surtout, on vérifiait, justement, les épidémiologistes, les spécialistes disaient, le conseil scientifique disait si oui ou non on pouvait franchir le pas supplémentaire. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais fait un reportage des deux côtés de la frontière française et espagnole. Les Catalans m'avaient dit, le gouvernement catalan m'a expliqué que le grand drame, alors que à l'époque, il y avait carrément une mise en quarantaine. Espagne-France, on était en quarantaine, 14 jours, etc. Bon, et donc c'était figé. Et les Catalans m'expliquaient que le drame, ça devenait vraiment urgent parce que cette partie de la région Catalogne vivait du tourisme et que donc il y avait un drame économique. Et comme par miracle, une semaine après, tout s'ouvrait. C'est-à-dire que l'Espagne ouvrait grand ses portes. Donc on voit bien en effet qu'il y a cette concurrence entre d'un côté la pression, il l'a dit, hein, la pression sociale qu'on pense en France par exemple, les drames de l'appauvrissement qui se sont produits dans bien des quartiers. Donc on voit que tout simplement ce confinement, l'État n'était plus capable de le maintenir en place, de l'imposer tant la pression est forte. Maintenant moi tout ce que je demande c'est que si vraiment, comme vous le disiez dans la question, on est rattrapé par une nouvelle vague de pandémie, il faudra pas aller chouiner, attention, toute pollution confondue bien évidemment, on n'a pas de masque, on n'a pas de test, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Non, là, il ne faudra pas dire Macron démission si la pandémie repart, pour être clair. Quoi.
Oui, Roselyne Fèvre, vous pensez qu'aujourd'hui, tout cela manque un peu de pédagogie? On a la sensation que les messages, on va dire, pour le tout ce qui est
juste... Ça va, on n'a pas 2 ans et demi.
Alors, intéressant.
Moi, je trouve qu'il y a une fois de plus l'effet loupe, l'effet médiatique. Sur la fête de la musique au canal Saint-Martin. Bon, c'est pas c'est un exemple.
Toute la France, il y a eu des rassemblements populaires joyeux, je le précise, mais sans distanciation physique.
Et puis les manifs avant.
Oui, mais alors à un moment, est-ce que on peut critiquer le fait d'avoir beaucoup trop confiné et entendre certains dire dans le fond, on a fait le choix de la vie contre celui de l'économie, maintenant ça suffit, on a trop confiné, tout ça pour sauver les vieux, hein, on a entendu ça, moi j'ai entendu des gens dire ça. Donc et à la fois dire non ça va beaucoup trop vite alors que l'économie est en train d'étouffer et qu'il faut la réanimer, on peut pas. Il y a un moment il faut avoir. On peut pas tout le temps vivre sous le principe de précaution. C'est bien le principe de précaution. Oui. Mais regarde, on l'avait reproché à Roselyne Bachelot il y a quelques années. Ça lui a été reproché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous reprocher de toute façon d'avoir accéléré le mouvement?
Mais alors, il reste peu de temps. Pardonnez-moi, Gilles Bornstein, on le voit sur les images pour ceux qui regardent le canal 27. C'est un peu tout et son contraire en l'espace de quelques semaines.
Les images, je les ai d'autant plus vues que c'est à 30 mètres de chez moi. Donc j'ai très bien vu ce qui se passait. C'est vrai qu'on était bien déconfinés. Là, il n'y avait pas de problème. On était bien déconfinés, bien collés. Je suis d'accord avec Roselyne. Il n'y a pas de principe. Peut-être qu'il y a trop d'excès de précautions. Mais enfin, on peut au moins avoir un principe de cohérence. Et par exemple, moi, j'ai du mal à comprendre.
Mais c'est aux Français d'avoir leur principe de cohérence.
Deux choses. J'ai du mal à comprendre.
Ils ont un problème,
comment l'État.
Ils sont tendants à l'État.
À la fois, par exemple, que dans. J'ai entendu Jean-Baptiste Djebbari dire ce matin que le masque serait obligatoire dans les transports en commun, dans les transports jusqu'à la fin de l'été, mais depuis aujourd'hui, on peut aller au cinéma, l'un à côté de l'autre, exactement pareil que dans un train, sans masque. Je ne sais pas s'il en faut un ou s'il n'en faut pas, mais il faut être cohérent. Quant à infantiliser les gens, je suis d'accord, on n'arrête pas de dire il ne faut pas nous infantiliser. Là, les scènes qu'on a vu hier, moi j'ai trouvé ça très bien, mais il n'y a pas pire pour la transmission du virus, parce que on est près les uns des autres, on crie fort parce qu'il y a de la musique, on postillonne, ce sont, enfin je suis pas épidémiologiste, oui, mais manifestement
ce sont des choses
dangereuses. Complètement d'accord, la pédagogie.
Oui, il faut continuer à
répéter le message, et effectivement les autorités sanitaires ont cette responsabilité.
Juste un mot sur infantiliser, moi je pense qu'il faut arrêter avec cet argument, parce que bien, moi je suis le premier à dire responsabilisons les gens, très très bien, mais on nous connaît, nous savons le peuple que nous sommes. Il y aura le moindre problème, de nouveau, comme d'habitude, on ira chouiner auprès de l'État, en disant l'État n'a pas fait ce qu'il faut, État démission, Macron démission, machin démission. Mais non, je ne dis pas du tout ça.
C'est la fin de la première demi-heure de ces informés. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer le nouveau chemin de l'après-municipal. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés de France Info.
Vu nos voisins ont été cambriolés, tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée ?
Point Fort Fichet. Et jusqu'au 30 juin, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point Fort Fichet. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 euros sur les portes blindées Fichet.
Porte, fenêtre, garage, volet, alarme, on va sécuriser toute la maison ? C'est parfait.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
France Info, première plateforme d'actualité au quotidien.
Le nouveau dispositif de chômage partiel sera en vigueur pendant 1 à 2 ans, le temps que durera la crise économique.
Sur le site, l'application et sur smartphone. France Info, première plateforme d'actualité au quotidien.
La météo, les prévisions de Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Après une fin de printemps perturbée, l'été débute sous les meilleurs auspices. L'anticyclone des Açores s'est positionné au-dessus de notre pays. Du coup, la journée de demain sera généreusement ensoleillée. Les températures nocturnes évolueront en général entre 10 et 15 degrés, comptez 16 à 20 autour de la Grande Bleue. Les maximales seront chaudes avec des valeurs comprises entre 25 et 33 degrés. Dans le détail, prévoyez 25 à Cherbourg, 27 à Brest, 28 à Lille, à Nancy et La Rochelle, 29 à Nantes, Tours et Strasbourg. On atteindra la barre des 30 degrés dans la capitale comme à Dijon, Perpignan et Bastia. La chaleur sera plus marquée entre le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine avec 32 degrés à Nîmes et 33 à Toulouse. Mercredi et jeudi, le mercure affichera 30 à 35 degrés sur l'ensemble du pays.
Sur le site, l'application et sur smartphone, France Info, plateforme d'actualité numéro 1.
h 30 sur France Info, l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. J'étouffe, ce sont les derniers mots prononcés par Cédric Chouviat, ce livreur âgé de 42 ans, décédé en janvier à Paris à la suite d'un contrôle routier qui a dégénéré. Les 4 policiers à l'origine de son arrestation ont été placés en garde à vue, c'était mercredi dernier, et entendu par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et Delphine Gauthier, vous avez pu avoir accès aux enregistrements du téléphone portable de Cédric Chouviat et de l'un des policiers qui fonctionnait pendant le contrôle. Delphine Gauthier.
Les enquêteurs vont d'abord commencer par passer au peigne fin la propriété de Ville-sur-Lume, héritée de sa sœur par Michel Fourniret en 2003, l'année de la disparition d'Estelle.
À 7 reprises, Cédric Chouviat répète aux policiers qui viennent de le plaquer au sol pour le menotter « j'étouffe ». Les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle sont formels dans leur rapport d'expertise. Les 9 vidéos issues du téléphone de ce livreur, père de famille, et les 3 provenant de celui d'un des fonctionnaires sont parfaitement audibles. Les experts de la gendarmerie notent qu'au début, l'échange est relativement correct, même si, écrivent-ils, nous pouvons ressentir une forme de provocation ou de défiance dans les paroles de la personne contrôlée. Plusieurs fois, Cédric Chouviat traite les policiers de vrais clowns, de guignols. À 3 reprises, le contrôle semble sur le point de s'achever, mais à chaque fois, les échanges reprennent, de plus en plus tendus. Cédric Chouviat répète 8 fois « pauvre type ». L'un des policiers croit alors entendre « fils de pute », ce que les experts qui ont écouté les enregistrements ne confirment pas. La situation s'envenime, Cédric Chouviat hurle, demande aux fonctionnaires de ne pas le toucher, en lançant un dernier guignol au policier qui décide alors de l'interpeller. « J'étouffe » seront ses derniers mots.
Delphine Gottschaux. L'épidémie de coronavirus, elle a fait 23 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures en France, dans l'Hexagone, où le bilan depuis le 1er mars approche désormais les 29 000 décès. Le nombre de patients en réanimation, lui, continue de baisser. La RATP suspend temporairement, en tout cas, les 6 caméras qu'elle avait installées pour une expérimentation dans la station Châtelet-Léal du métro parisien. Caméras qui permettaient la détection automatique du port du masque par les usagers. Dans un récent rapport, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, s'inquiétait du développement de ces caméras intelligentes qui n'est aujourd'hui encadrée par aucun texte particulier, relevait la CNIL. Des conséquences délétères et durables face à la montée des discriminations à l'emploi, au logement, à l'éducation lors des contrôles policiers. Dans un rapport, le défenseur des droits, Jacques Toubon, lui critique l'insuffisance des politiques publiques sur cette question. Et puis de jeunes mis en examen à Nice, mardi dernier, ils avaient été surpris en train de mettre le feu à une antenne relais 5G de l'opérateur Free à Compte près de Nice. 20h33, les informés, la deuxième partie.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Avec Roselyne Fèvre, la chef du service politique de France 24, Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous allons évoquer Emmanuel Macron qui prépare son nouveau chemin, ce new way, on aurait dit en anglais. Mais pour quel scénario? Remaniement, référendum au sortir de la convention citoyenne sur le climat? Parmi les 149 propositions, certaines décoiffent, il faut le dire, le crime d'écocide et les 110 km/h sur autoroute. Elisabeth Borne y est favorable à titre personnel. La ministre de la Transition écologique l'a dit à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV ce matin.
Si on baisse la vitesse, on réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Dans le principe, du coup, c'est vrai que c'est une mesure efficace pour le climat. À titre personnel, oui, voilà, mais je pense que c'est important, sur des sujets comme ceux-là, de vérifier qu'il y a aussi une adhésion des Français. Et de ceux qui sont directement concernés, c'est pas mon cas, je vais pas au travail en prenant ma voiture pour aller en utilisant le
tour. Roselyne Fèvre, Elisabeth Borne met un jeton dans la boîte à polémique, là, non?
Oui, alors la question est de savoir c'est si ces 110 km/h étaient proposés donc par cette convention donc au Parlement et qu'il y ait une loi, est-ce que ça pourrait changer le fait que ce soit des citoyens qui le proposent? Parce que ce qui énerve les Français de plus en plus, c'est qu'on voit cette désaffection pour la politique, ce rejet des politiques, parce que dans le fond, tout est imposé et il y a une forme de soumission, d'où les colères qui surgissent ici, de là. Et on voit aujourd'hui, on manifeste pour tout, y compris les 80 km/h. Enfin, on n'a pas manifesté dans les rues de Paris, mais enfin, en tout cas, dans certaines mairies de province, c'était le cas. Donc, est-ce que le fait que ça vienne de la part de citoyens peut, en quelque sorte, être plus bénéfique sans donner l'impression que la décision vient d'en haut?
Question posée.
Je ne sais pas, j'ai pas la réponse.
On passe par les citoyens, puis ensuite la représentation nationale, c'est ça?
Je pense que Roselyne a raison. Effectivement, si c'est proposé par les citoyens, c'est moins violent pour les gens que si c'est imposé par le politique. Je pense qu'ils vont quand même être très prudents parce que, outre l'opposition aux 80 km/h, c'est quand même ce qui a fait naître indirectement ou directement les gilets jaunes. Et je suis pas persuadé que le gouvernement a très envie d'y retourner. D'ailleurs, Elisabeth Borne le dit, hein, qu'elle y est favorable à titre personnel, mais qu'elle est instruite de l'expérience et qu'ils ne l'imposeront pas. Donc, voilà.
Alors, je vous soumets la même question, Maya Daboulos, mais écoutez d'abord ce qu'en a dit François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé Les Républicains, chez nos amis de Sud Radio ce matin.
Au fond, je crois que le président de la République, qui ne cesse de dénoncer les populistes, est en train d'adopter ici un virage authentiquement populiste. Est-ce que la démocratie représentative est à ce point discréditée qu'on considère que 150 personnes tirées au sort, qui travaillent dans un milieu fermé, vont suffire à produire des propositions qui ressemblent vraiment à ce que veulent les Français?
Maya Daboulos, c'est populiste?
Non, je veux dire, on pourrait lui retourner la question et lui demander si la démocratie participative, c'est du populisme. Je suis assez d'accord avec ce que disaient Gilles Bornstein et Roselyne Fèvre tout à l'heure. C'est-à-dire que la difficulté de l'écologie, c'est que pour que ça marche, il faut que ça soit concret. Pour que ça soit concret, il faut qu'il y ait de la norme. Or, la norme en matière d'écologie, c'est quoi? En réalité, c'est de l'interdiction, c'est de l'obligation ou c'est des taxes. Interdiction, obligation, taxe égale rejet. Donc comment on fait pour faire accepter ces mesures qui, rappelons quand même que les Français se préoccupent...
Vous voulez dire pour les faire accepter, il faut qu'elles viennent du bas.
Il faut qu'elles viennent du bas. Les Français se préoccupent de l'environnement. Mais comment faire pour faire accepter des normes concrètes? Donc effectivement, le référendum peut être une solution. Il y a néanmoins des conditions. D'abord, je suis assez sensible à la question du référendum multi-questions, pour ne pas que ça se transforme en référendum populaire, pour qu'on réponde à la question sur l'environnement et pas rejet ou pas de Emmanuel Macron. Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas que l'exécutif donne l'impression de se défausser. Ouais. Donc on pose un référendum, mais on prend nos responsabilités après. Et enfin, faire attention à ce que le référendum ne soit pas technique ou simplement sémantique ou symbolique.
Bien. On va revenir sur le référendum dans un instant, mais nous n'avons pas éclusé totalement le sujet de cette méthode Henri Vernet, populiste ou pas, aux yeux des uns et des autres. Est-ce qu'au fond, selon vous, c'est la bonne méthode que d'en passer par des comités de 150 personnes qui viendraient, au fond, réécrire les programmes présentés par les candidats dans des élections régulières?
Alors, ils viennent en appui. Donc, en ce sens-là, moi, ça me paraît une bonne méthode. On sait bien que, de toute façon, la Ve République a la Constitution, donc, enfin, notre système politique, institutionnel, il a besoin de respiration. Et qu'un vote, parce qu'il y a un vote qui est suprême, c'est celui de l'élection présidentielle, tous les 5 ans, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait davantage que cette démocratie, elle vive. Et d'ailleurs, c'était présent dans bien des partis. Alors, peut-être pas chez LR, en effet, peut-être que Bellamy, encore que, je suis pas sûr qu'il n'ait pas du tout eu chez aucun de leurs représentants d'idées de cette sorte. Emmanuel Macron, lui, en avait parlé. Hein, c'est son discours de Strasbourg quand il était candidat. La France insoumise, on se souvient. Alors, ça m'amuse parce que j'entendais tout à l'heure un député insoumis critiquer ça en disant exactement la même chose. Ce ne sont pas 150 personnes qui vont décider du sort de tout un pays. Bah, sauf que LFI avait elle-même soumis à des citoyens tiers au sort, en tout cas en partie, un projet de réforme constitutionnelle. Donc, bref, si c'est un bon moyen, puis rappelez-vous, c'était déjà dans le programme de Ségolène Royal en 2017. Bon, elle n'a pas été élue, mais enfin, le programme avait intéressé. Donc, c'est une bonne façon de faire respirer les choses. Après, en revanche, il faut que ce soit validé. Et donc, là, allons...
Quelle est l'idée que le président puisse dans la caisse à outils des 150
pas que le président, encore une fois. Dans notre pays, le drame, c'est qu'on ramène tout au président. Et là aussi,
c'est un peu lui qui a installé ce système.
Parce que, justement, voilà, il y a des gens qu'on a élus qui s'appellent des députés et des sénateurs indirectement. Ouais. Donc, d'abord, en effet, qu'eux-mêmes évaluent, mais également que... ou alors, on peut dire que, directement, ce soit soumis à référendum. Alors, je pense que les 110 km/h, ce serait assez dangereux de mettre en référendum, ça aurait peu de chances de passer. Je remarque quand même juste là-dessus que les 80 à l'heure, c'était une bonne idée, c'était une bonne initiative, c'était utile, ça a fait ses preuves, et pourtant, ça a été balayé, là, pour le coup, sous un autre populisme, celui des grands élus locaux.
Mais là, ça risque d'être la même chose.
Bien sûr, mais oui. Et c'est pour ça que je crains que ce soit un leurre, ces 110 km/h. C'est-à-dire, occupons-nous d'abord de revenir aux 80 à l'heure, mais je crois qu'ils sont d'ailleurs déjà un petit peu oubliés. Donc,
mais
non,
c'est
je suis pas sûr que ce soit.
C'est plutôt le principe qu'il faut.
Le risque d'une mesure comme les 110 km/h, c'est que ça attire trop l'attention et qu'on oublie les autres
mesures
qui sont
spectaculaires. Alors, on va s'intéresser au référendum dans un instant. 20h40 sur France Info, le Fil Info, Emmanuel Langlois.
Entre la bourse et la vie, on fait le choix de la vie. Déclaration des élus de Guyane, à commencer par le président de l'association locale des maires, David Richer. C'était tout à l'heure sur France Info. Ils demandent tous le reconfinement de la population face à la progression du coronavirus, alors que le nombre de cas explose dans le département d'outre-mer. Avec plus de 9 millions de cas au total, l'OMS déclare que la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, même si elle recule en Europe et en France, où le conseil scientifique juge extrêmement probable une augmentation de la circulation du Covid-19 à partir de l'automne prochain. 200 policiers d'un côté, 150 militants du comité Adama Traoré de l'autre. Deux manifestations en Seine-Saint-Denis pour condamner ou au contraire défendre la fresque contre le racisme et les violences policières. Récemment inaugurée à Stein, elle représente les visages d'Adama Traoré et de George Floyd tués aux États-Unis. Une nouvelle opération de recherche d'armes lancée après les violences survenues il y a une dizaine de jours à Dijon. Elle a permis l'arrestation de 9 personnes et la découverte d'un important arsenal. Célio, à son tour fragilisé par la crise, l'enseigne de mode masculine demande à être placée sous procédure de sauvegarde après la fermeture pendant plus de 2 mois de ses près de 1600 magasins à travers le monde, avec à la clé, selon un communiqué du groupe Célio, une perte d'affaires, de chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros. Et puis elle avait été reportée par le confinement. La grande foire d'art contemporain de printemps Art Paris pourra se tenir en septembre au Grand Palais. La décision a été prise avec les galeries exposantes et aussi les autorités. Le plan de la foire sera lui revu avec des allées plus larges et moins d'exposants.
France Info.
et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Alors ce référendum, bonne ou mauvaise idée? Question posée ce matin par Marc Fauvel et Renaud Dely sur France Info à Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre.
Je suis assez réservé sur les référendums. Finalement, les Français choisissent la question. C'est pas forcément la question qu'ils auraient posée à laquelle ils répondent. Donc, notamment dans les périodes de crise, ils votent pour ou contre le pouvoir. Et donc, ils votent souvent dans des situations qui sont des situations manichéennes. Hein. Donc, je suis assez...
Vous déconseillez Emmanuel Macron de convoquer un référendum?
Moi, je suis très, très prudent sur le référendum. Il y a des circonstances où il peut être utile. Il faut sans doute un climat démocratique apaisé, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui.
Gilles Bornstein, manichéen, le référendum, du moins les votes à chaque fois?
Jusqu'à présent, oui. Enfin, on a coutume
Est-ce
de
qu'on
dire
peut parier sur l'intelligence, peut-être,
on a coutume
français.
De dire que les Français répondent à celui qui pose la question et pas à la question qui est posée. Après, effectivement, donc, on sent que le gouvernement veut contrarier ça en faisant un référendum à choix multiples avec plusieurs questions différentes pour qu'on puisse répondre aux questions sans vraiment donner un blanc-seing à Macron. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de dangereux parce qu'une fois que c'est lancé, eh bien, si les Français veulent vraiment vous dire qu'ils ne sont pas contents, eh bien, vous leur donnez un outil pour le dire. Maintenant, voilà, comme l'a dit Henri, il faut que la Ve République respire. Oui. C'est vrai que la Ve République manque de respiration. Il y a eu le grand débat, il y a eu cette convention citoyenne. On sent que tout cela est imparfait, on sent que tout cela est balbutiant, débutant, expérimental. On cherche des moyens de faire respirer la démocratie dont on a constaté qu'elle ne respirait pas assez. Alors un référendum à choix multiples, je ne dis pas non a priori.
La voie référendaire, Maya Daboulos, c'était une des revendications des Gilets jaunes.
Absolument, c'est pour ça. Moi je pense que la délibération aujourd'hui, le choix de la population, le seul moment où on l'exerce, et encore on ne l'exerce pas toujours, vu les taux d'abstention, c'est l'élection. Donc effectivement, oui au référendum, je trouve que c'est plutôt habile de faire un référendum à questions multiples pour éviter encore une fois le référendum populaire. Donc oui, pour faire respirer la démocratie et donner aussi un nouvel élan à la démocratie participative.
Alors, Henri Vernet.
Non, mais d'autant que quand
le référendum, est-ce que ce nouveau chemin qui se dessine, ce serait un peu ça, une sorte de cocktail avec, au fond, des comités de citoyens qui pourraient s'exprimer sur des sujets, des interpellations.
Alors, sur la méthode, oui, il pourrait y avoir aussi beaucoup plus de paroles données aux élus locaux, aux forces du terrain, parce que c'est ça qui a beaucoup fait défaut et aux partenaires sociaux. C'est ça qui a beaucoup fait défaut dans la première partie.
Aujourd'hui et demain,
exactement.
Par Emmanuel
Macron, s'exprimer les citoyens, donc en effet, à travers ce genre de convention, à travers pourquoi pas un référendum, et puis donc beaucoup plus de concertation. C'est aussi des politiques beaucoup plus lisibles, hein, je pense que c'est ça qui va se dessiner, c'est-à-dire qu'on puisse identifier ce que fait ce gouvernement, si ça marche ou si ça marche pas, mais en tout cas que ce soit visible. D'ailleurs, c'est assez amusant ces périodes de pré-remaniement, vous savez, les journalistes sont très sollicités, hein, ils sont invités à déjeuner, à petit déjeuner, à rencontrer des ministres, qui évidemment chacun se pousse du col. Et alors là, il y a un mot moi que j'ai découvert cette semaine, c'est objet politique perceptible. Alors je me suis demandé ce que c'était, et puis donc le ministre en question m'a expliqué que voilà, c'est que quand on met en œuvre une action, alors en citant par exemple des choses qui n'avaient pas été assez perceptibles, comme en matière d'environnement, voilà, alors en matière d'environnement n'aurait pas été assez perceptible, la fermeture des centrales au charbon, la construction des éoliennes, même un peu parfois contre-productif,
ça c'était pas perceptible. C'est mal dit,
puis ça parle pas assez aux Français directement, quoi. Les centrales au charbon, c'est vrai qu'on se lève pas...
Qui n'a pas imprimé, dit Maya Daboulos.
Et donc là maintenant... Il faut de l'OPP, objet politique perceptible. Donc vous aurez par exemple de la rénovation thermique. J'imagine que chacun dans son champ a son OPP comme ça.
Un OPP. Alors il y a peut-être pas d'OPP, mais il y a quand même une PPP, une préoccupation politique perceptible. Puisque quand même, encore une fois, c'est pas anodin de faire un référendum sur un des sujets de préoccupation majeurs pour l'opinion, quelle que soit la classe sociale d'ailleurs, et quelle que soit l'origine géographique. Et les études du CVIPOF sont très intéressantes à ce sujet.
Je suis d'accord qu'il faut à la fois, je pense qu'il faut faire voter les Français sur ce qui les intéresse, et peut-être sont-ils plus intéressés par les 110 km/h que par la Constitution européenne, mais je suis peut-être un vieux ringard, mais déranger les Français à grands frais un dimanche pour savoir s'ils sont pour ou contre les 110 km/h ou pour ou contre la rénovation thermique.
Encore une fois, il n'y a pas que les 110 km/h.
Non, il y a la rénovation thermique.
Il y a 149 propositions, voilà.
C'est
donc
vrai.
Il y aura un vaste cocktail de propositions.
C'est vrai. Donc je trouve qu'il faut trouver le... des questions qui quand même méritent qu'on déplace, je ne sais pas combien il y a d'électeurs en France, il doit y avoir 40 millions d'électeurs à peu près.
Mais je crois que la préoccupation environnementale le mérite largement.
La préoccupation environnementale, oui, mais on ne vote pas Mayada sur une préoccupation, on vote sur une mesure.
Vous faites un référendum et vous décidez
Roselyne Fèvre. Roselyne Fèvre.
Si vous décidez de faire un référendum, une fois, vous serez tenté d'en faire un deuxième sur un autre sujet, un troisième. Donc plutôt faire ça, pourquoi pas un ministère des rapports avec les citoyens. Dans ce cas, il y aurait un ministre qui serait...
C'est De Gaulle qui l'a créé, c'est De Gaulle qui l'a prévu dans sa constitution. C'est sa constitution.
Pour ces changements de choix politique du président de la République, il y a ce remaniement qui se profile après les élections municipales. Je vous rappelle que le deuxième tour, c'est dimanche prochain. Je vais vous soumettre une IPP, une interrogation politique perceptible. Faut-il changer de Premier ministre? Daniel Cohn-Bendit, invité de Caroline Roux aux 4 vérités sur France 2 ce matin.
Le président de la République doit redéfinir son programme pour avancer vers la transition écologique. Et c'est vrai que si le président doit changer ou le Premier ministre actuel dit « moi aussi je suis prêt à changer », ça serait une surprise. Sinon, le président doit trouver un nouveau Premier ministre. Mais alors là, je vous dire écologiste ou pas, moi je vous dis il faudrait qu'il ressuscite Michel Rocard en femme.
Gilles Bernstein, ressusciter Michel Rocard. En fait, est-ce qu'il faut, par-delà la boutade de Danny Cohn-Bendit, il faut une nouvelle incarnation là encore?
Écoutez, il y a eu... Je pense pas. Enfin, je lis beaucoup de papiers selon lesquels Emmanuel Macron serait plutôt tenté par renverser la table et changer de Premier ministre. Très bien. Il y a eu ce matin un sondage IFOP pour CNews, je crois, sur des intentions de vote présidentielles. Oui, franchement, sondage assez étonnant. Parce qu'on dit, on a dit pendant longtemps, on nous prépare le même deuxième tour. Et puis, avec les différentes crises, on s'est dit non, Macron va baisser. Ce sondage donne Marine Le Pen à 28%. Et Emmanuel Macron a 26% au premier tour. J'ai du mal à croire que si aujourd'hui il y avait une élection, il ferait 26%. Mais enfin, IFOP, ils sont à peu près sérieux. Et que ça soit Xavier Bertrand ou François Baroin, ils sont à 11 et 12. Donc manifestement, il y a quelque chose, quoi qu'on dise, qui marche. Très bien pour Emmanuel Macron, c'est capter l'électorat de droite. François-Xavier Bellamy a fait 8% aux européennes, et là, que ça soit Baroin ou Bertrand, ils font 12. Donc, si on fait de la politique, si on fait une analyse objective des choses, il a tout intérêt à continuer une politique de centre-droit.
Et à conserver donc
parce qu'elle fonctionne, et à conserver Édouard Philippe parce qu'il arrime à la Macronie un électorat qui n'est même plus de centre-droit, qui est un électorat de droite. Parce que la moitié des électeurs de François Fillon du premier tour, qui n'étaient pas des gens de centre-droit. Parce que pour voter François Fillon en 2017, il fallait vraiment être de droite. La moitié de ces électeurs voteraient aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc, tout laisse à penser qu'il va peut-être faire l'inverse. Mais moi, je me dis, quand je vois ces chiffres, je me dis, s'il veut être réélu, il a plus intérêt à continuer une politique de droite, disons de droite, avec Édouard Philippe, qu'à aller chercher un socialiste, une politique écolo-socialiste, pour laquelle, à mon avis, il est définitivement discrédité. Voilà, j'arrête.
20h50 sur France Info, le Fil Info, avec vous, Emmanuel Langlois.
C'est vraiment une douche froide, un coup sur la tête, réaction d'un délégué syndical CFDT sur France Info après l'annonce d'un nouveau plan social, le quatrième en 4 ans chez Nokia. Le géant finlandais des télécoms annonce la suppression de plus de 1200 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent, essentiellement dans les Côtes d'Armor et dans le département de l'Essonne. L'espoir d'élucider une disparition 17 ans après, des fouilles ont débuté aujourd'hui dans les Ardennes sur une ancienne propriété de Michel Fourniret. Il s'agit pour les enquêteurs de tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003. Le tueur en série a récemment avoué son meurtre. Les scènes ont choqué toute l'Allemagne. Angela Merkel dénonce des actes ignobles après les violences urbaines et les agressions de policiers par des bandes de jeunes. C'était tout ce week-end à Stuttgart. Elles doivent être fermement condamnées, dit la chancelière. Les autorités allemandes, elles, jugent ces actes de vandalisme d'une ampleur sans précédent outre-Rhin. L'Arabie Saoudite, elle annonce ce soir la tenue fin juillet du Grand pèlerinage musulman de la Mecque, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, mais avec un nombre très limité de fidèles en raison de la pandémie. Seules les personnes de toute nationalité, mais se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien, pourront ainsi effectuer le Hajj. Et puis, tout autre chose, c'est la première destination touristique privée en Europe. 4 mois après avoir fermé en raison de l'épidémie de Covid-19, eh bien, Disneyland va rouvrir ses portes progressivement au public à partir du 15 juillet avec une capacité d'accueil limitée.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je vous fais part de l'indignation d'un très proche du président de la République qui me glisse à l'oreille aujourd'hui. Emmanuel Macron perd 5 points et Édouard Philippe en gagne 4, c'est injuste. Pourquoi Emmanuel défend Édouard? Il n'était pas pour la baisse des APL, il n'était pas pour les 80 km/h, Emmanuel Macron. Il n'était pas pour le maintien des municipales et il paie les pots cassés. Maya Daboulos, est-ce que vous pensez que ces changements de gouvernement, dans ces cas-là, ont fait de la réelle politique où on peut solder quelques vieux contentieux?
Les contentieux comptent, mais ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. En réalité, c'est vrai que les questions que les Français se posent aujourd'hui à l'égard du président, même si sa popularité n'est pas si basse que ça, hein, elle est plus élevée qu'avant la crise du Covid. Mais les questions qu'on se pose à l'égard du président, c'est où nous emmène-t-il et comment nous considère-t-il? Or, à ces deux questions, à la première, il a été trop conceptuel, et à la seconde, il a été perçu comme trop arrogant. C'est exactement l'inverse pour Édouard Philippe, qui fait face un peu à un double paradoxe. On a l'impression qu'il est à la fois libre, il n'est pas membre de la REM, mais très loyal. Par ailleurs, il est extrêmement populaire, plus que le président, plus que le gouvernement, plus que l'opposition, et c'est ce qui est intéressant aussi, mais en même temps, il n'incarne pas un changement de cap. Donc la question est changer de Premier ministre, compliqué. Pourquoi pas, mais pour aller vers quoi, pour aller vers où? Il faut que ça se traduise par un changement politique.
Roselyne Fèvre, mieux vaut l'avoir dans les murs,
Oui, il vaut mieux l'avoir, Philippe, oui. Il vaut mieux qu'il soit à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est vrai que certains pourraient se poser la question si en 2022, comme ils n'ont pas grand-chose en magasin, que Édouard Philippe soit tenté. Mais ça, c'est le secret le mieux gardé de la République. Moi, je ne suis pas d'accord dans le sens où je ne pense pas qu'il y aura de changement de politique. Il y aura un resserrement des priorités, c'est-à-dire que peut-être coupler l'écologie avec l'économie, être sur le social beaucoup plus et l'hôpital, sur l'environnement, bien évidemment. Mais c'est pas ce que j'appelle un cap, c'est-à-dire qu'il ne change pas totalement.
Social et l'environnement n'ont pas été les priorités du quinquennat jusqu'ici.
Non, bien évidemment, mais ce n'est pas changer de cap, c'est en quelque sorte, rappelez-vous, il disait au début de son quinquennat, je veux libérer et protéger. Il a été dans la phase libéré avec la loi travail, et là il entre dans le fond à la moitié de son quinquennat dans la phase je protège, je suis le protecteur, je suis celui qui protège les Français.
Alors,
est-ce qu'il va nous emmener vers ça? C'est réponse le 2 ou 3 juillet.
La majorité à l'œil rivé sur l'horizon 2022. Gilles Legendre, le patron du groupe des marcheurs à l'Assemblée nationale, chez nos confrères de CNews.
Notre majorité, derrière le président de la République, derrière le gouvernement, doit bâtir pour les 2 années qui viennent un projet qui mobilise les Français positivement.
Il y a un peu le feu à la maison, non ?
Je ne veux pas que nous gagnions l'élection présidentielle de 2022 par défaut. Nous devons la gagner parce que nous aurons démontré que ce mandat aura été réussi dans des conditions, ça n'a échappé à personne, particulièrement difficiles.
Alors Henri Vernet, le groupe La République En Marche a remis aujourd'hui une sorte de pensum, 24 pages de propositions de La République En Marche, penser la crise, construire l'avenir, retrouver la confiance, et j'ai repéré des têtes de chapitre. Écoutez bien, accélérer la transition écologique, placer les territoires au cœur du nouveau pacte républicain et promouvoir les souverainetés françaises et européennes. C'est en clair, c'est tout en même temps.
Oui, tout en même temps, mais ils ne font que reprendre les desiderata du président. C'est Macron lui-même qui avait dit, de toute façon, maintenant, il y a 3 piliers qui nous attendent, environnement, social et souveraineté. Et c'est vrai que sur le côté souveraineté européenne, il faut reconnaître à ce président d'être extrêmement actif. On le voit là, c'est
quand même lui qui est à l'heure. Ça brasse large, quand même.
Oui, ça brasse large. Oui, mais ça répond aussi aux préoccupations des gens. Regardez, c'est vrai que l'environnement, on l'a assez dit, mais je pense que maintenant, on a compris que c'est en effet une des préoccupations numéro 1. Sauf que, avec cette crise du Covid, avec le long confinement et donc ces ravages économiques. On voit bien que le social revient de manière très très forte, donc c'est un en même temps auquel il est obligé. Quant à la souveraineté, on vient d'évoquer les violences policières, enfin tout ce, toutes ces suspicions qu'il y a dans la société, qu'il faut remettre de l'ordre là-dedans, et tout en se préservant sur nos frontières, j'allais dire, au sens frontières européennes. Donc c'est un en même temps qui est obligatoire, en quelque sorte. Vous parliez des comptes, alors qui pour mener ça, on parlait donc des contentieux, des comptes qui se règlent, oui, etc. Oui, certes, il y en a, on a bien vu des frictions à la tête au sommet de l'exécutif pendant justement cette période récente, mais regardez, souvenez-vous, Fillon et Sarkozy, il y avait plus que des frictions, il y avait de vrais antagonismes, ils ont fait 5 ans ensemble. Et donc là, on a quand même un Premier ministre qui est quand même finalement un exécutant, qui est assez loyal, et on voit en effet mal pourquoi Macron prendrait le risque de... C'est lui qui incarne en réalité. Leur drame, en marche, c'est ça. C'est qu'il n'y a que le président qui incarne, par rapport à eux, qui incarne une politique. Donc,
Maya Dabolos, on peut être attrape-tout comme ça?
Non, mais je crois que derrière la question que vous posez, la question taquine que vous avez posée à Henri Vernet, il y a la question du mouvement. En réalité, ce que vous pointez du doigt, c'est que il y a la question du changement de gouvernement, mais quid du changement dans le mouvement, dans le parti politique, de la REM, dans lequel il y a un manque de cohérence, un manque d'ancrage local, un manque de modernité aussi. Et c'est ça aussi qu'il va falloir faire évoluer.
Et Gilles Bernstein, mot de la fin, attrape tout.
Oui, moi je pense que ça, c'est une vraie question, parce que c'est vraiment le président de la République. Il veut être tout le monde à la fois, le président de la République. On a dit qu'il n'avait pas vraiment d'idéologie, mais c'est vrai, il veut être chef de guerre comme Clémenceau, il veut être protecteur des artistes, et il veut être sincèrement écologiste, souverainiste, régalien, antiraciste. Il est extrêmement protéiforme, ce qui peut être un avantage, ce qui a été un avantage pour gagner l'élection.
Ils l'ont tous un peu été.
Juste avant c'est pas si nouveau, rappelez-vous, le précédent centriste, c'était Giscard. Et Giscard, c'était quoi? C'était 2 Français sur 3. C'est un vieux rêve. Chaque personne
Sarkozy
à l'Élysée a envie de... Sarkozy était clivant.
Du Parisien, aujourd'hui en France.
Alors, écoutez, puisqu'on déconfine, c'est attention aux arnaques dans les locations de vacances avec des témoignages très forts. Voilà, on est passé maintenant à une autre étape, on le voit bien.
Merci à tous les quatre, Roselyne Fèvre, Maya Dabolos, Henri Vernet et Gilles Bernstein, d'avoir participé à cette édition des Informés de France Info.